C'est toujours un plaisir de méditer la parole de Dieu en différents endroits. Et je vous présente les salutations de notre église de la rue Sonnera, puisque on a la joie, par exemple, d'accueillir Claire dans notre église. Il y a des liens comme ça qui se tissent petit à petit. Hein. On est voisins, donc on se connaît. Et puis pour nous, c'est toujours une joie de revoir Luc et Sylvie aussi, et de passer un peu de temps avec eux. Alors je rebondirai sur les annonces de ce matin, j'ai vu que vous étiez joueur dans cette église. Donc je vous propose une question pour un champion. Allez savoir pourquoi j'ai choisi ce jeu-là. Que s'est-il passé le 18 mars 1990 au matin à Boston? Ça, je pense que même Luc est en difficulté sur cette question. J'avoue qu'avant de préparer le message, j'en avais aucune idée. Eh bien, figurez-vous que deux hommes en uniforme d'officier sont entrés dans le musée et sont repartis avec 13 toiles, dont celle-ci, la tempête sur la mer de Galilée. Ce vol est considéré comme le plus grand vol d'art de l'histoire des États-Unis. Il n'a pas encore été élucidé, même si le 18 mars 2013, il y avait une date anniversaire, je crois qu'ils ont quand même voulu montrer qu'ils avaient réussi quelque chose, le FBI a déclaré connaître l'auteur du crime. Mais ils n'ont pas retrouvé l'étoile, ils n'ont pas arrêté les auteurs. Vous l'avez deviné, ce matin, je vais vous inviter à méditer le court passage de l'évangile de Marc qui nous rapporte cette traversée très mouvementée du lac de Tibériade, qu'on appelle aussi la mer de Galilée. Alors c'est l'habitude de situer un texte dans son contexte. Le chapitre 4 commence par des paraboles, la parabole du semeur, de la lampe, de la semence, de la graine de moutarde. Jésus enseigne ses disciples à l'aide de paraboles. Il nous est dit, Marc 4, verset 33, « Par beaucoup de paraboles de ce genre, il enseignait la parole de Dieu à ses auditeurs en s'adaptant à ce qu'ils pouvaient comprendre. » Jésus avait toujours ce souci d'être proche des gens et de se faire comprendre, pas de faire des grands discours. Et là, avec le texte de ce matin, on passe à un autre volet d'enseignement. Jésus va enseigner des vérités, cette fois-ci, en action. C'est en suscitant certaines situations qu'il va délivrer des enseignements. Le passage que nous lirons, c'est Marc 4, versets 35 à 41, nous présente donc le récit d'une tempête. Après ce passage, nous verrons Jésus, alors nous ne le verrons pas aujourd'hui, mais vous pourrez vous y reporter, délivrant un homme habité par des démons, guérissant une femme atteinte de perte de sang depuis très longtemps, ressuscitant une petite fille, là c'est Jésus en action. Et ce que ces récits ont de commun, c'est que Jésus révèle à travers ces situations sa toute-puissance à travers des actes. Mais il est temps d'en venir au texte. Je vous le lis dans la Bible en français courant. Le soir de ces mêmes jours, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils quittèrent donc la foule. Les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. D'autres barques étaient près de lui. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque à tel point que déjà elle se remplissait d'eau. Jésus, à l'arrière du bateau, dormait, la tête appuyée sur un coussin. Ses disciples le réveillèrent alors en criant « Mais maître, nous allons mourir, cela ne te fait donc rien ?» Jésus, réveillé, menaça le vent et dit à l'eau du lac « Silence, calme-toi !» Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis Jésus dit aux disciples « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore confiance ?» Mais ils éprouvèrent une grande frayeur et se dirent les uns aux autres « Mais qui est donc cet homme pour que même le vent et les flots lui obéissent ?» Jusque-là, la parole de Dieu. En quoi ce texte nous concerne-t-il encore aujourd'hui et que nous apprend-il? Il me semble, vous avez le droit de ne pas être de mon avis, mais qu'il y a une première réponse assez simple, c'est que la tempête qui nous est rapportée ici symbolise les épreuves de la vie, les circonstances où nous perdons le contrôle de la situation et où nous sommes incapables de trouver en nous-mêmes la solution. Je crois que nous sommes tous concernés car nous traversons tous des temps difficiles, des moments où on se sent impuissant. Quant à l'enseignement, on peut se dire en premier jet, comme ça, on peut le résumer ainsi, avec Jésus, rien à craindre. Il peut nous sortir de n'importe quelle situation puisqu'il est tout puissant. Il commande même la mer et le vent, qui pour nous sont des éléments indomptables. Nous pouvons donc avoir confiance et ne plus nous inquiéter. Comme souvent, la première impression contient du vrai, mais moi, ça ne me satisfait pas complètement. Et j'ai voulu me poser quelques questions que je partage avec vous. Par exemple, comment se fait-il que les disciples se soient retrouvés dans cette tempête? Est-ce qu'ils avaient été imprudents? Est-ce qu'ils avaient désobéi à Jésus? Ils ont été punis? Et puis, est-ce que ça m'éclaire sur le pourquoi de mes tempêtes? Pourquoi moi je traverse des tempêtes? Deuxième question, comment ont-ils réagi face au danger? Et moi, est-ce que je réagis différemment d'eux? Puis troisième question, est-ce que la réponse de Jésus à leur appel de détresse les a vraiment rassurés? Pourquoi les disciples se sont-ils retrouvés en danger? Alors il y a une première réponse qui est toute simple, c'est il arrive qu'il y ait des tempêtes sur un lac. Ça peut s'expliquer par le relief de la région. Si on regarde, vous voyez sur la photo que le lac de Tibériade est entouré de montagnes. Et si on regarde la carte topographique, si vous regardez au niveau du lac, là on est dans les bleus, on est à peu près à moins 200, moins 300 mètres en dessous du niveau de la mer. Et puis quand on est autour du lac, on est dans les zones bleu-vertes, là on est plutôt à 300 mètres, quelque chose comme ça, donc on a un dénivelé de 500-600 mètres. Si certains parmi vous ont eu l'occasion d'y aller, c'est vrai que quand on y va, on monte, puis d'un seul coup, boum, ça plonge. Et on imagine que les vents qui arrivent là montent et s'engouffrent dans cette dépression, et donc oui, il y a des tempêtes très violentes. Et dans la vie, c'est comme ça aussi. Il y a des tempêtes. Alors vous allez me dire, d'accord Philippe, il y a des tempêtes tous les jours. Mais pourquoi ce jour-là, Jésus les envoie sur le lac alors qu'il sait qu'il va y avoir une tempête? Il sait tout. Et il les envoie. Parce que c'est bien en obéissant à Jésus qu'il se retrouve dans cette tempête. C'est lui qui a dit, passons de l'autre côté du lac. La compagnie de Jésus ne leur a pas épargné la tempête. Se confier en Jésus, ce n'est pas une assurance tout risque dans la vie en disant « Moi, j'ai la foi, il ne m'arrivera rien. » On aimerait bien, Ce n'est pas comme ça que ça marche. Lorsque nous suivons Jésus, nous nous attendons plutôt à recevoir de lui de bonnes choses. Jésus n'a-t-il pas dit en Matthieu 7, 11, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Et c'est vrai que Jésus nous donne beaucoup de bonnes choses. Et il m'est jamais arrivé de demander à Dieu de m'envoyer une tempête. À vous non plus, je suppose. Ce n'est pas vraiment le genre de prière. Et pourtant, il peut arriver qu'en le suivant, en lui obéissant, on se retrouve face à des tempêtes. Jésus était dans la barque, il y a quand même eu la tempête. Notre foi en lui n'est pas la garantie d'une vie sans épreuve. Une amie de notre église qui venait d'apprendre qu'elle était atteinte d'un cancer du sein nous a dit « Mais Dieu ne nous a jamais promis de nous éviter la maladie. » Il nous a promis que même dans la maladie, il serait auprès de nous. Ben, c'est ce qui s'est passé dans notre récit. Jésus était avec les disciples dans la barque. Peut-être que cette image va vous évoquer une histoire que peut-être vous avez déjà entendue, je m'en excuse si vous connaissez ce texte. Ça n'a rien de biblique, hein. C'est une histoire comme ça inventée. Une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque scène de ma vie, il y avait deux paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuions à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêté, j'ai regardé en arrière et j'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes. Et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie, les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. Je l'ai interrogé. Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi, mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul au moment où j'avais le plus besoin de toi. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on ressent quelquefois ? Et le Seigneur répondit, mon fils, tu m'es tellement précieux. Je t'aime. Je ne t'aurai jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'était moi qui te portais. Une des leçons de ce texte, c'est que traverser une tempête ne signifie pas être abandonné de Dieu. Comme on l'a dit, Jésus était avec les disciples dans la barque. Alors, est-ce que Jésus est encore avec nous aujourd'hui? Sous la forme du Saint-Esprit, il est en nous. C'est lui qui nous garde, qui nous console et qui nous guide. Si nous demandons pourquoi nous traversons parfois des tempêtes, j'ai essayé de penser à des situations bibliques de personnages qui ont traversé des tempêtes. Je ne sais pas vous, mais moi, le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est Job. Pourquoi Job a-t-il connu tant d'épreuves? La parole de Dieu nous dit qu'un jour, Satan est arrivé et quand Dieu lui a dit « Tu as vu mon serviteur fidèle ?» Satan lui dit « Oui, mais il est fidèle par intérêt. C'est parce que tu l'as comblé de bienfaits et tout que enlève-lui ses richesses, enlève-lui ses enfants, enlève-lui la santé, tu vas voir, il va te maudire. » Et Dieu a permis que Job soit mis à l'épreuve. Et pas de petites épreuves. Il a perdu à certains moments tout espoir. Il a maudit le jour de sa naissance. Pas Dieu, mais le jour de sa naissance. Mais Dieu a fait en sorte que Job récupère bien plus que ce qui lui avait été pris. Et qu'a répondu Dieu aux questions de Job? Job 38, verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Imaginez-vous à la place de Job, vous posez une question. Même dans la vie, hein, ça vous est peut-être arrivé un jour de poser une question, et puis on lui dit, non mais ta question, elle est sans intelligence. Grand silence. On ne conteste pas avec Dieu comme tu l'as fait, Job. Et Dieu l'a remis à sa place en lui posant toute une série de questions auxquelles Job était totalement incapable de répondre. Et finalement, Job dira, ben oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Il est dans notre nature de chercher une explication à ce qui nous arrive. Parfois, l'explication est simple. J'ai consommé de l'alcool ou des stupéfiants et j'ai eu un accident de voiture. La relation de cause à effet est évidente. Mais d'autres fois, il n'y a pas d'explication. J'ai mené une vie saine, sans excès d'aucune sorte, et pourtant, je suis malade. Il nous est bien difficile de dire comme Job, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, il faut continuer de remercier le Seigneur, c'est la traduction dans la Bible en français courant. Pourquoi les disciples ont-ils traversé cette tempête? Je ne suis pas sûr que nous puissions apporter une réponse totalement satisfaisante, mais je suppose que Jésus a voulu leur apprendre à lui faire confiance en toutes circonstances. À cette période-là, les disciples sont en formation, ils vont être envoyés en mission, ils vont connaître des tempêtes. Je crois que Jésus a voulu leur montrer qu'aucune situation n'échappe au contrôle de Dieu. Et il en donne ici une preuve en commandant à l'eau et au vent. Et je crois que les disciples se sont souvenus longtemps de cet épisode. Et que ça a dû les aider à ne pas perdre espoir lorsqu'ils ont connu d'autres tempêtes. Et en même temps, je me dis, les disciples, c'est des gens comme nous, et on a quelquefois la mémoire courte. Hein. On passe par des épreuves, on est sauvés, et puis la fois d'après, on s'inquiète de nouveau, comme s'il ne s'était rien passé la première fois. Et je me dis que si cet épisode a été rapporté par Marc, c'est pour que nous aussi, nous soyons bien conscients que Jésus est maître de toutes choses, et qu'aucune situation aussi désespérée, nous semble-t-elle, n'est hors de son contrôle. Je ne sais pas vous, mais en ce moment, on a vraiment souvent besoin de se dire « Dieu est aux commandes ». Parce que ce n'est pas aussi évident. J'en arrive à ma deuxième question, comment les disciples ont-ils réagi? Le texte ne le dit pas explicitement, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même un peu tardé à aider Jésus à l'aide. Je n'arrive pas à voir si je suis à la bonne diapo. Non, c'est pas là. Je suis trop en avance. Là aussi. Il nous est dit, les vagues se jetaient dans la barque à tel point déjà elles se remplissaient d'eau. Donc je ne sais pas, même si les tempêtes sont soudaines, on voit quand même arriver les nuages, on voit le vent qui se lève et tout, on a quand même quelques minutes au moins pour se préparer. Ils n'ont pas réveillé Jésus à ce moment-là. Ils ont attendu que la barque se remplisse bien pour faire appel à Jésus. Est-ce que ce n'est pas aussi souvent notre cas? Est-ce que votre première pensée face à un imprévu, c'est de vous tourner vers Dieu et de prier? Ou est-ce que votre première réaction, c'est de dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et allez hop, on mobilise notre cerveau, notre énergie, tous nos connaissances, enfin suivant la situation, et on essaye de faire face. Pourquoi est-ce qu'on tarde? Parfois, souvent, suivant nos personnalités. On va voir qu'il peut y avoir plusieurs raisons, et que ce sont toutes de mauvaises raisons. La première raison, c'est souvent parce que nous sommes tentés de compter sur nos propres forces. Si on pense aux disciples, ce sont des marins pêcheurs. Ça ne doit pas être le premier grain qu'ils essuient. Je suppose qu'ils fréquentent ce lac, qu'ils le connaissent bien, donc ils vont gérer, comme d'habitude. Et puis c'est pas comme d'habitude. Là, cette fois-ci... La barque se remplit et finalement ils se décident à réveiller Jésus lorsqu'ils perdent tout espoir de s'en sauver seul. Et c'est bien souvent ce que nous faisons aussi. Et je me dis que appeler Jésus, ça n'exclut pas d'utiliser nos compétences. On peut très bien faire tous nos efforts pour nous en sortir et appeler Jésus à l'aide en même temps. Je pensais à David. L'Écriture nous le présente comme un homme selon le cœur de Dieu. Il consultait le plus souvent Dieu, Mais sur le champ de bataille, il ne restait pas assis à attendre que Dieu fasse tout à sa place. Il y allait. Les deux. Appeler Jésus et en même temps utiliser les compétences, les forces que Dieu nous donne. Se confier en Dieu, ce n'est pas synonyme de passivité. Dieu nous a accordé des dons pour que nous les mettions en œuvre. Mais il veut aussi que nous restions dépendants de lui. Nous avons étudié, il y a un an ou deux, rue Sonnera, le livre des juges. Donc ces épisodes me sont revenus. Qu'est-ce qui se passait quand Israël ne comptait que sur ses propres forces et où chacun faisait ce qui lui plaisait? Eh bien, c'était une crise, jusqu'à ce qu'ils appellent à Dieu, et Dieu suscitait un juge, un chef, qui prenait les choses en main, qui les sortait de leur situation. Et puis une fois que le juge avait disparu, parce que ils ne sont pas éternels, et hop, ça, on repartait dans des cycles, etc. Vouloir s'émanciper de Dieu, l'oublier, est-ce que ce n'est pas tout simplement ça le péché? Se penser suffisant et vouloir faire à notre façon. Deuxième raison aussi pour laquelle nous tardons quelquefois à faire appel à Dieu, c'est que peut-être nous craignons de le déranger. Je ne sais pas vous, mais moi, l'idée m'est pas venue comme ça, mais il m'est arrivé de me dire, je ne vais quand même pas déranger Dieu pour des broutilles comme ça, quoi. J'aurais presque honte d'aller demander à Dieu d'intervenir dans telle situation. Et peut-être que c'est une humilité mal placée. En tout cas, c'est coller à Dieu une étiquette limitante, alors qu'il est partout, qu'il peut tout, et qu'il nous aime d'un amour sans fin. J'avoue que j'ai évolué, et peut-être que vous trouverez ça bizarre, mais il m'est arrivé de prier Dieu pour trouver une place de parking. Alors, je l'ai refait depuis, ça ne marche pas à tous les coups. Mais quand je réfléchis aux circonstances où ça a marché, on avait la charge de la maman de mon épouse, et qui, sur les derniers mois de sa vie, a dû consulter pas mal de médecins, on a dû l'emmener à pas mal de rendez-vous médicaux et tout, et faire 50 mètres de marche, c'était une épreuve. Et donc je priais, la veille notamment, en disant « Seigneur, fais que tout puisse bien se passer ». Je n'ai pas vraiment prié pour une place de parking, mais « Seigneur, fais qu'on puisse faire les choses bien ». Il y a des endroits où il n'y a jamais de place. L'avenue Émile Zola à Villeurbanne, vous pouvez passer 10 fois, il n'y a jamais de place. On s'est garé devant la porte ce jour-là. Place ronde, Lyon 3, en face de chez l'opticien, il n'y a jamais de place ce jour-là. La voiture était devant la porte. Dieu nous soigne même dans ces petits détails. Bon, moi je sais marcher, il m'envoie quelquefois à 500 mètres. Je crois qu'on ne doit pas avoir peur de déranger Dieu quand on est vraiment dans un besoin. Il n'y a pas de petites choses. Peut-être aussi on tarde parce que on se sent un peu coupable ou pas légitime pour demander son aide. Seigneur, je sais, je suis pécheur, j'ai péché, je suis un peu responsable encore de ce qui m'est arrivé là. Je sais pas, quand un enfant a fait une faute, il a un peu plus de mal à aller voir papa pour lui demander de l'aide, quoi. Parce que papa va lui dire, non mais t'as vu ce que t'as fait? Dieu ne nous reçoit pas comme ça. Rappelez-vous le fils prodigue. Comment son père l'a accueilli? Moi, c'est un des récits de la Bible que je me répète souvent et qui me fait énormément de bien. Parce que quand on y pense, dans le récit, en tout cas, le père voit juste le fils revenir. Il ne sait pas tout le cheminement intérieur qui s'est fait dans l'esprit du fils. Et il l'accueille simplement parce que c'est son fils. Et il appelle à faire la fête. 1 Jean 1,9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si vous vous sentez coupable et que vous vous dites dans ces situations-là, je ne peux pas demander l'aide de Dieu, bah commencez donc par confesser votre péché et demander son aide ensuite. Et puis peut-être qu'une raison pour laquelle on tarde quelquefois à faire appel à Dieu, c'est que, alors évidemment on ne se le dit pas comme ça, mais on est dans une situation où on dit de toute façon il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus d'espoir. J'ai tout essayé. Oui, tu as tout essayé. Et tu es convaincu qu'il n'y a plus de solution. Mais Dieu est tout puissant. Tout puissant. Ses ressources sont infinies et nous dépassent. Lequel des disciples aurait cru que Jésus allait se lever en disant « Tais-toi ». Qui est capable d'imaginer les solutions que Dieu va trouver? On pourrait résumer en disant, laissons Dieu être Dieu et faire les choses à sa façon. N'essayons pas d'imaginer comment il va faire. C'est son problème. À certains moments, on remet toute cette question à Dieu. Romains 8, verset 26 nous dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Il y a des moments où simplement, je ne sais pas vous, mais moi où je dis simplement « Seigneur » et je ne sais pas quoi dire d'autre derrière. Je crois que Dieu, lui, sait ce dont j'ai besoin. Et puis j'espère ne choquer personne en citant cette cinquième raison. Mais peut-être qu'à certains moments, nous n'appelons pas Dieu parce que nous sommes en colère contre lui. Imaginez-vous à la place des disciples dans la barque. Je ne sais pas si vous avez fait attention, moi la toile de Rembrandt, je l'ai regardée un certain temps. Il y a des disciples qui sont accordés au cordage, il y en a un qui a pendu à la voile en haut du mât. Imaginez, vous êtes en haut en train d'essayer de tenir le truc et il y a Jésus qui est allongé dans la barque, la tête sur un coussin, et il dort. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je m'imagine assez bien le regarder en disant « Et il dort, lui !» Mais vous, n'êtes pas comme moi, je suppose que vous diriez bah, « C'est tant mieux pour lui. » Eh bien, je vais lui montrer que je peux m'en sortir sans lui. Continue ta sieste. Pourquoi Jésus dort-il? Est-ce que c'est de l'indifférence? Maître, nous allons mourir, cela ne te fait donc rien? En d'autres termes, donc tu ne te soucies pas de nous. Est-ce qu'on s'est jamais demandé ça dans l'épreuve? Est-ce que Dieu ne nous a pas un peu oubliés? Alors, je ne sais pas vous, mais je pense que par crainte de Dieu, quand même, on ne va pas jusque-là dans la révolte vis-à-vis de Dieu. C'est quand même Dieu en face. Si on a conscience de qui est Dieu, il y a des limites qu'on ne franchit pas. Mais je pensais par exemple au prophète Habacuc. J'avais eu l'occasion de méditer ce livre devant vous il y a plusieurs années. J'ai toujours été frappé par cette prière de Habacuc qui dit « Mais jusque à quand, Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu entendes mon cri ?» Voilà un homme qui dit, mais regarde le monde dans lequel on vit, regarde ce qui se passe, et t'interviens pas, mais je te reconnais pas. Et la réponse de Dieu, si vous vous souvenez du livre d'Habacuc, c'est, je vais faire venir les Chaldéens, peuple féroce et déchaîné qui parcourt les étendues de la terre pour prendre possession des demeures d'autrui. En résumé, le pire est à venir. Prépare-toi. Et c'est finalement ce que fait Habacuc. Je me tiendrai à mon poste de garde, je resterai debout sur le fort du guetteur et je guetterai pour savoir ce qu'en moi-même Dieu me dira. Il attend la réponse de Dieu. Et cette réponse de Dieu, elle vient. Même s'il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il viendra sûrement, il ne tardera pas. Il faut entendre ça quand on est Habacuc et que ça fait des années que la situation se détériore. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra par sa foi. Que ce soit Job, que ce soit Habacuc, l'épreuve est permise pour Job, voulue par Dieu, parce que l'invasion des Chaldéens, c'est une punition d'Israël pour tous les méfaits des siècles auparavant. Et dans cette situation-là, la seule ressource, eh bien, c'est la foi, la confiance. Et d'ailleurs, regardez comment Jésus parle aux disciples après. Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore confiance? Ça ne vous rappelle pas un peu la réprimande que Dieu fait à Job? Faire confiance, c'est notre ressource, c'est un choix, c'est pas facile. Et puis, quelquefois peut-être, nous craignons la réponse de Dieu quand on fait appel à lui. Regardez les disciples ici. Ils éprouvèrent une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, mais qui est donc cet homme pour que même les vents, le vent et les flots lui obéissent? Moi, je me dis que, à la place des disciples, une fois que Jésus a parlé et que le lac s'est calmé, ils ont dû soupirer quand même un coup, quoi. Ça y est, c'est fini. Puis en y réfléchissant, non mais, c'est qui cet homme avec nous? Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'ils assistent à un miracle. Hein. Ils ont vu l'eau changer en vin. Est-ce que j'oserais dire que c'est un petit miracle? Bon, je suis incapable, évidemment. Hein. Je n'ai pas à la maison en me demandant de faire ça. Mais à côté d'une tempête dont on sort comme ça, guérir des malades, ça c'est déjà un peu plus... Chasser les démons, tout ça. Mais là, commander à la mer et au vent, c'est impressionnant. Comment ne pas être impressionné par quelqu'un qui a de tels pouvoirs? Et si jamais ces pouvoirs, ils s'en servaient contre nous? Je ne sais pas, Luc, imagine qu'au prochain jeu télévisé, tu gagnes une journée en compagnie de Teddy Riner. Ah, bon. Et vous partez ensemble dans la ville découvrir des choses. Je pense qu'à côté de Teddy Riner, tu te sentirais en sécurité dans la rue. Mais que tu ferais attention de ne pas lui marcher sur les pieds, quand même. C'est jamais. Si jamais il est impulsif, cet homme-là. Bon. C'est un exemple fictif, bien sûr, mais qui montre que la puissance, ça peut rassurer, mais ça peut inquiéter aussi. Avant de déranger un puissant, on y réfléchit à deux fois. Et les disciples se sont fait réprimander pour leur manque de foi. Et vous comme moi, on n'aime pas être réprimandés. Je ne sais pas, quand on lit la parole de Dieu et qu'on voit les disciples qui ont manqué de foi, bah, paf, on se le prend pour nous, ça, non? Dans certaines situations. Hein. On n'aime pas trop, ça. Alors, j'en arrive à ma conclusion. Vous vous souvenez probablement de cette expression tirée d'une pièce de Molière, « Mais qu'allait-il faire dans cette galère ?» Fourberie de Scapin, on apprenait ça à l'école dans le temps, je ne sais pas si on le fait encore, j'espère. Ben, la réponse pour les disciples, elle est toute simple. Ils suivaient Jésus. Et pourtant, ils ont essuyé une tempête et ont failli faire naufrage. Donc, les épreuves qui jalonnent notre existence ne sont pas nécessairement le fruit d'une imprudence ou d'une désobéissance. Ça peut être le cas, mais pas nécessairement. Parfois, Dieu utilise l'épreuve et la souffrance pour nous enseigner, nous fortifier, tester notre foi. Et pourtant, ça ne signifie pas qu'il dort ou qu'il est indifférent. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Israël, c'est son peuple. Et la parole nous dit que nous sommes son peuple aujourd'hui. Il ne sommeille ni ne dort celui qui nous garde. On n'a donc même pas besoin de le réveiller. Il ne dort pas. Ne craignons pas de le déranger. Il est bien disposé à notre égard. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez été marqué par cette pensée que quand Dieu pardonne, il ne se souvient même plus. C'est dit dans Hébreux, et puis c'est repris à un autre moment. Nous, quand on pardonne, on se souvient encore. Dieu ne se souvient même plus. On peut aller vers lui quand on a demandé son pardon. N'ayons pas peur de lui, mais faisons-lui confiance. Parce que comme les pas sur le sable nous aident à nous le rappeler, Dieu ne nous abandonne jamais. Il veille constamment sur nous. Et quand les disciples étaient dans la tempête, Jésus était dans la barque. Et qu'est-ce qui les a sortis d'affaire? Eh bien, quand ils ont appelé Jésus. Donc, si nous voulons sortir de nos tempêtes, faisons appel à lui. Amen.